à voix nue. Hommage à André Putman, décédé le 19 janvier. Catherine Gell avait rencontré la grande dame du design français en 2002. Ce soir, des nuits de Paris et New York au travail de la lumière.
André Putman, bonjour. Pour le quatrième moment que nous passons ensemble, j'aimerais que nous évoquions une chose auquel vous êtes, me semble-t-il, attaché. Une chose et son contraire, le jour et la nuit, la lumière et son inverse. Voulez-vous commencer par le jour ou par la nuit? Car la nuit a tenu aussi un rôle important dans votre vie.
Peut-être par le jour, mais ça me plaît que vous parliez de ça, parce que tout d'un coup, je réalise que c'est une façon de laisser comprendre à quel point on aime la vie, puisqu'on se débrouille pour occuper également la nuit. Il n'y a pas cette espèce d'idée de repos du combattant, il y a une idée de fêter la journée, au fond, la nuit.
Alors justement, je crois qu'en fait, on va commencer tout simplement par la nuit, puisque nous sommes partis là-dessus. La nuit, c'est un moment, avant d'entamer vraiment cette fête et cette vie sociale que vous célébrez et que vous aimez, est-ce que la nuit et la façon dont vous parlez d'habiter la nuit, c'est pas aussi pour faire reculer le moment où on se retire?
Mais c'est comme les enfants qui ne veulent pas aller se coucher, ça relève de ça, à vrai dire. C'est qu'ils ne quittent pas une pièce remplie de grandes personnes épatantes sans avoir le sentiment que ce qui va se passer de mieux ce soir, c'est après qu'ils seront au lit. Et qui vont rater quelque chose. Au fond, moi, je me rends compte, par exemple, je reste toujours dans les fêtes, parce que je pense toujours que peut-être il va passer quelque chose de magnifique et que je vais le rater.
Alors, votre vie, la nuit, c'est quoi exactement ?
La vie, la nuit, ça a commencé par la musique noire avec le jazz. Ça va avec le fait que dès mes 13 ans, je commençais à fumer un peu dans les coins de la maison et que personne ne m'empêchait de le faire parce que j'étais déjà dans le nuage de fumée des cigarettes de mon père et de celles de ma mère, et que c'était comme une espèce de formation éclair à la vie de la nuit. C'était un peu tôt, ce qui ne veut pas dire que je sortais dans les boîtes de nuit à 13 ans. Mais j'ai compris la fascination de la nuit.
Et la dimension ?
C'est aussi l'idée qu'on ne dit pas les mêmes choses la nuit, qu'il y a un abandon, comme si en fin de course, la vie du jour, on avait des faiblesses et des délicatesses qu'on n'a peut-être pas dans la force de la journée, on dirait à midi. Quand on est en pleine possession de sa journée, de son énergie, qu'on n'a rien abîmé encore, qu'on n'a pas à regretter quelque chose qui s'est passé dans la journée qui vous assombrit. Souvent, la nuit, il faut un peu digérer les malheurs du jour aussi.
On sait que vous avez une vie sociale très riche. Donc la nuit, la nuit qui tombe, les moments un peu plus sombres, ça veut dire aussi aller rencontrer les autres.
Rencontrer les autres, bien sûr. Je ne le fais plus, mais j'ai énormément reçu. Donc j'ai aussi beaucoup réfléchi sur comment c'est une soirée, la lumière, est-ce qu'il faut la laisser très basse? Eh bien, oui, pour mon goût, oui, il faut qu'elle soit basse, il faut que tout le monde se voit très bien et que ce ne soit pas triste. Mais je l'aime beaucoup, par exemple, dans une pièce qui est quantité de petites lampes avec une ampoule de voltage faible, mais c'est un peu comme le ciel, c'est-à-dire il y en a qui sont un peu plus fortes que d'autres. C'est un peu comme la Voie lactée, c'est pas réparti régulièrement. Il y a des coins plus sombres, des coins plus clairs. Et j'imagine, comme ça, j'ai une grande imagination de ces confidences, de ces moments de confidences, mais dans le sens où tout d'un coup, on s'entend raconter un secret qu'on croyait vouloir garder pour soi tout seul. On ne voit pas ça dans le jour.
Est-ce que vous nous aviez dit, nous avions dit que nous parlerions de vos années palace, c'est-à-dire de cette nuit délicate que vous venez d'évoquer. Enfin, d'ailleurs, l'un ne va pas forcément sans l'autre. Une nuit plus effrénée ou plus...
Une nuit où tout est possible, on ne va pas faire de... comme ça, de name-dropping sur les intellectuels, mais si vous rencontrez Michel Foucault et Roland Barthes, peut-être que déjà vous ne vous dites pas que vous êtes en train de vivre une vie de petite écervelée, vous vous dites que vous vous exposez à des rencontres fulgurantes en allant dans des endroits comme ça. Mais ce que j'appelle des endroits comme ça, c'est, il n'y en avait eu qu'un, c'était le palace.
Alors,
il était animé par cet homme magnifique qui était un homme très simple, d'une incroyable sensibilité, un tout petit peu sorcier. Mm-hmm. Il avait une intuition incroyable. Il a beaucoup, beaucoup évolué en très peu de temps. Il a vu l'art très bien. Il a eu des amis peintres qui ont beaucoup compté pour lui. Et il a eu surtout une possibilité de comprendre que ce qui était magnifique dans un endroit, c'était d'y mélanger et d'y traiter magnifiquement des gens les plus éloignés les uns des autres, qui n'avaient aucune chance de se rencontrer autrement. Dès l'enfance, moi j'ai été horrifiée par les ghettos, les castes, le ton pour parler à un ouvrier différent du ton pour parler à une dame puissante et riche qui va peut-être accepter de vous aider. Mais moi, j'étais indignée quand j'étais petite. J'étais carrément très, très engagée socialement comme enfant. Et comment est-ce que j'aurais eu ce rôle tellement beau, sinon à base d'indignation? C'est l'indignation qui m'a réveillée. Et c'est d'ailleurs l'indignation qui m'a porté à m'intéresser aux choses les plus bannies, les plus mal vues, d'une certaine façon, où on pouvait me dire comment oses-tu mettre des barbouillages pareils sur tes murs. Et les barbouillages, c'était Bramborvel.
Alors... cet endroit, ces endroits comme ça de nuit où se croisent justement finalement les...
Alors où se croisent les gens beaux, les gens jeunes, les emportements de la jeunesse, les gens qui... J'ai vu ça tout près de moi, des gens qui vont une fois dans un lieu comme ça à 15 ans et qui pensent qu'ils n'ont pas d'autre solution que d'y aller tous les jours. Ce sont des grands dangers ces endroits parce qu'ils sont trop captivants pour ne pas... poser problème, parce qu'ils occupent beaucoup de temps quand même. Une fois qu'on y est, on y reste.
On y reste, et le lendemain?
Et le lendemain, si on doit aller à l'école, c'est un peu difficile.
C'est ça qui, moi, m'étonne, si je puis me permettre, c'est cette énergie et cette vivacité qu'il faut pour accompagner aussi bien la nuit que le jour.
Mais vous savez, c'est en vous parlant que j'ai pensé à ça. Mais je pense que c'est pour fêter ce qu'on a accompli dans la journée.
Et est-ce que pendant ces nuits, se nouent aussi des projets, des idées, puisque vous parliez d'échanges tout
bien
à l'heure,
sûr,
est-ce que c'est des
sûr.
Choses qui...
Tous ces lieux, il y en a eu beaucoup qui ont tenté de faire ce que Fabrice Aimer, pour ne pas le nommer, avait fait au Palace. Sont très... Justement, dès que la musique est trop forte, tout est impossible. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits de nuit, ça peut être même des bars très très ordinaires, mais où on est, où il y a, je pense à un lieu que Marguerite Duras a adoré, qui était le Rosebud, et j'ai une passion pour cet endroit aussi, et quand j'y vais, je me dis toujours, mais qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui nous fait aimer cet endroit? Eh bien, c'est... son côté film noir, c'est sa grâce, c'est la familiarité des gens qui s'en occupent.
Des histoires d'atmosphère en somme.
C'est des histoires d'atmosphère ô combien. Et puis c'est la tête des gens qui y vont finalement. C'est souvent un guide pour s'attacher à un lieu.
Et alors, le lendemain?
Alors le lendemain, ben, au fond c'est réservé à une tranche de la vie qui est pas si longue, parce que c'est vrai que si on se couche à 7 heures du matin, on n'est quand même pas fameux en réunion à 10 heures. Donc ça cloche un peu souvent. Mais pas à 20 ans.
Et vous avez pratiqué, si je puis dire, pendant combien de temps?
Moi, j'ai pratiqué de plusieurs façons différentes. Je dirais 15 ans, 15-20 ans. Beaucoup sorti pendant 15-20 ans. Et puis après, il y a eu New York, où j'ai beaucoup passé de temps dans un célèbre endroit qui s'appelait le Club 54. Où justement des hordes de gens de 18 ans arrivaient par le tunnel un peu tard le vendredi soir et le samedi soir de Brooklyn et d'ailleurs, et c'était des gens qui avaient beaucoup réfléchi sur ce qu'ils allaient porter, qui étaient des gens qui faisaient la mode, qui étaient considérablement audacieux et doués. Et qui, finalement, rencontrait les gens qui, peut-être un jour, allaient financer leur affaire. C'était peut-être là qu'on se rencontrait pour amorcer une aventure professionnelle très sérieuse.
Parce qu'aux hordes de jeunes dont vous parlez, il se mêlait les hordes de vedettes
alors,
aussi.
Oui, le public officiel... de ce qu'on appelle, au fond, les gens qui font la noce, quoi, les gens qui sortent systématiquement et qui sont souvent des gens qui ont considérablement bien réussi et qui festoient en permanence. C'est leur vie.
Alors, il y a aussi, je crois, les boîtes de jazz.
Ah, les boîtes
avec
de jazz,
avec Louise Bourgeois, il me semble, une bouteille de whisky en poche.
Le CBGB, ça, c'était une boîte punk où Louise Bourgeois m'avait emmené un jour, et on a beaucoup, beaucoup passé de temps à écouter de la musique. Alors là, c'était... Il y avait des orchestres qui passaient constamment, qui étaient des gens qui, un jour, allaient devenir illustres, qui étaient invités dans cet endroit parce qu'il avait déjà la réputation d'être une sorte de banc d'essai, comme ça, un lieu où on venait découvrir des nouvelles musiques.
Nous allons revenir à cette lumière que la nuit chasse, mais qui est là dès le lendemain.
C'est beau de la voir arriver, l'aube. Ça, c'est vraiment un moment impressionnant, l'aube. Et justement, je l'ai connue un peu à cause de la nuit. Je n'ai pas tellement connu parce que je me levais à l'aube, il faut être honnête.
Mais parce que vous
alliez
vous coucher à l'aube.
Ça m'est arrivé beaucoup de fois, oui. Alors, la lumière, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut apprivoiser avec... C'est un élément de jeu, souvent, la lumière. Et je me suis beaucoup, beaucoup attachée à tout ce qui se passe dans une pièce grâce à la lumière, quand le soleil, même faible, donne des reflets, fait des dessins sur les sols, des taches intenses sur les plafonds. Et... qui a cet ombrage dessiné par un store, par exemple. Il y a des beautés géométriques avec la lumière. Et il m'est arrivé même de truquer des effets avec des lumières et des miroirs.
Je vous ai entendu dire une fois que la lumière, pour vous, permettait d'inverser les vides et les pleins.
C'est vrai.
Et de quelle façon, en fait
La lumière, par exemple, je viens de faire un lieu à Los Angeles qui est un restaurant, qui s'appelle la Bastide. Et j'ai fait peindre chaque mur d'une couleur différente, mais de telle façon qu'on croit que ce sont les ombres qui nous font percevoir les couleurs comme différentes. Et c'est un jeu, non pas que ce soit un but en soi, mais c'est pour définir ou expliquer à quel point c'est complexe, la lumière et la couleur, puisqu'on fait passer 12 couleurs différentes pour une même couleur, traversée, influencée par des ombres qu'on crée avec des revêtements de fenêtres, toutes sortes de trucs.
Est-ce que ce jeu avec l'impalpable... et aussi une sorte de dimension finalement
une réaction
très...
aussi au plein. J'ai été que réaction au plan. le plein, les lieux bourrés, les lieux suffocants de richesses, d'effets, de scintillements, m'ont paru insupportables quand j'étais très jeune.
C'est aussi une dimension supérieure de votre métier, c'est-à-dire arriver comme ça à dompter, à apprivoiser cet impalpable.
Oui, et à revoir cet espace qui vous est confié dans toute sa pauvreté, son absence d'effet, quitte à en inventer après, comme on pose un bijou sur une femme, mais qu'enfin on soit dans le vide, enfin dans quelque chose à quoi on va consacrer un axe, un ordre, un calme. C'est comme si j'avais été intoxiquée et affolée par la splendeur des installations, des maisons, l'excès de bibelots, le côtoiement excessif des tableaux, et que j'avais eu comme une espèce d'allergie, d'intolérance à cette accumulation de biens qui finalement devenait pour moi le comble de l'irrespirable.
La lumière, ce n'est que la lumière naturelle ou ça peut être
hélas,
aussi
non. Mais il y a beaucoup la tentation dans mon travail d'éviter les objets lumineux très visibles, très présents, qui immédiatement sont identifiés à l'idée d'une lampe. J'aime beaucoup, beaucoup les lampes, bien sûr. Je viens de vous dire que j'aime beaucoup qu'elles soient comme la Voie lactée, irrégulières et nombreuses dans une pièce. Mais on parle de tellement d'endroits. Quand on parle d'endroits, je veux dire, on couvre tellement de conceptions d'endroits différents. Mais par exemple, un magasin ou une galerie dont on ne verrait absolument pas la source lumineuse et qui serait comme un écran éclairé sans aucune ombre d'un tube ou une ampoule visible, dans le miracle de cette transparence lumineuse, il me semble que c'est magnifique. Ça fait encore un objet en moins dans la pièce, puisqu'on a résolu le problème de la lumière. Mais on ne peut pas parler comme ça d'une chambre à coucher ou d'une cuisine dans laquelle on invite ses amis à dîner.
Et pourtant, j'ai l'impression, en ayant regardé les différents hôtels justement que vous avez, alors parce que là, il est question et de nuit et de jour et
c'est
de
vrai.
Lumière, et il m'a semblé qu'en fait, très souvent, les hôtels sont des endroits pour la nuit. Effectivement, on y passe la nuit et puis on s'en
c'est
va.
C'est des refuges au fond.
Et vos hôtels me semblent aussi, d'une certaine manière, en tout cas les chambres de vos hôtels, très faits. Aussi pour le jour, on va citer quelques...
C'est drôle que vous disiez ça, parce que c'est les seules fois de ma vie où j'ai travaillé dans une chambre, justement. Et peut-être que j'ai... Vous me révélez quelque chose, peut-être que je me suis dit, mais il faut qu'on se sente très très bien dans cette chambre, parce que on va peut-être y passer la journée.
Mais je crois que même le fait de se réveiller le matin et de sentir qu'on est dans un endroit où on peut passer la journée est totalement différent que de se réveiller dans un hôtel où on voit, enfin dans une chambre où l'on voit qu'il n'y a que la nuit qui compte finalement et où il va falloir tracer.
Et on sait qu'on la quitte le matin pour aller travailler.
En fait, vous avez fait, avant de faire un hôtel à Paris qui est le Pershing Hall, toutes vos expériences se sont passées à l'étranger.
Tout.
Comme si, finalement, ce que vous dites, s'amuser, l'amusement, faire que le lieu où l'on reste soit aussi un lieu de voyage hors de chez soi ou hors de
comme
soi.
Comme une parenthèse.
Était difficilement acceptable en France. On a l'impression que les hôtels sont aussi patrimoniaux que le reste. Est-ce que vous voyez une évolution
Je pense surtout que mon travail n'est pas... Et c'est très ambigu. Il plaît aux étrangers. C'est pas de la fausse modestie. Parce qu'il est, à leurs yeux, plus français que français. Ils pensent que je suis la parisienne type. Pas du tout, à mon avis. Mais c'est comme ça que je suis perçue. Mais à Paris, je suis considérée... Aujourd'hui, tout a changé. Mais j'étais considérée comme quelqu'un de très excentrique, assez difficile, qui défendait des idées indéfendables dans certains domaines et qui était parfois choquante. Alors, l'idée que c'est ça qui était mon sort, la façon dont je s'est perçu à l'époque, qui a fait que les étrangers se sont intéressés à moi, et d'abord les Américains, puis les Allemands, puis les Japonais, c'est drôle. Les Américains ont quand même cru que j'étais très très connu en France, parce que j'allais souvent à New York pour d'autres raisons que le travail. Et après, les Français se sont dit, mais nous avons une petite dame, un peu grande d'ailleurs, mais nous avons une dame à Paris qui a l'air de très très bien réussir ailleurs. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Alors j'ai entendu des phrases, ben, il paraît que vous faites des lieux qui ressemblent à des cliniques et qui ont un charme fou. Un écrivain m'a dit ça un jour. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis dit, ben oui, pour les Français, dès que c'est simple, ça ressemble à une clinique.
J'aurais aimé qu'on évoque un petit peu les différents hôtels, peut-être les, oui. les principaux. Il y a évidemment l'hôtel Morgan à New York, le Wasser Tour à Cologne, donc qui est fait dans ce château d'eau magnifique. Extraordinaire,
oui, vraiment construit extraordinaire. Par un ingénieur anglais, curieusement. À la fin du 18e, qui est une splendeur. Oui, c'est un très bel objet. Il y a d'ailleurs des livres sur les plus beaux châteaux d'eau du monde, qui a été fait par des grands artistes allemands photographes.
Il y a les Béchers.
Voilà.
Qui ont photographié tous les sites industriels allemands. Oui. C'est extraordinaire.
Et au fond, oui, c'est passionnant de travailler sur cet hôtel. C'est passionnant parce que j'avais déjà une étiquette un peu lourde à porter qui était Madame Noir et Blanc.
Voilà.
Madame Caro, Madame.
Alors, ça, le Morgan avait beaucoup fait pour ça.
Oui,
si je puis dire.
Ça, c'est la presse qui a amplifié cette solution que j'avais trouvée parce qu'on me proposait un carrelage tellement misérable et tellement médiocre et en m'expliquant qu'il fallait que je le prenne puisque c'était le moins cher du marché. Et tout était à l'avenant. Alors j'avais adopté ce carrelage et au dernier moment j'ai vu des couleurs assez fades et j'ai pensé au moins donnons-lui cette énergie. Ce carreau noir et blanc, il a été consacré autour de l'aviation, autour des voitures de course. Il y a des drapeaux à carreaux noir et blanc pour accueillir les avions. Pourquoi pas ? Et je ne me doutais pas du poids que ça allait peser sur ma vie. Parce que dans l'esprit des gens, ils avaient adoré le Morgan, mais il était entièrement noir et blanc. C'était absolument faux. Mais bon, la mémoire trie bizarrement les choses.
Vous étiez devenue la femme qui dame.
J'ai
vu ça un jour.
Absolument.
Très joli. Mais le Wasser Tour, il s'agit d'autre chose.
Alors, totalement autre chose. On ne voit pas clair dans ses chambres. C'est l'objet de tous les amours des habitants de la ville. Avec la cathédrale, c'est quasiment le seul immeuble qui a échappé au bombardement. Il ne va pas pouvoir être possible de toucher à quoi que ce soit. Alors, les fenêtres à certains étages sont minuscules. Il faut donc introduire la lumière. Et c'est par des astuces très compliquées, entre autres, une paroi lumineuse qui ressemble à la lumière du jour, qui accède en cachant un escalier, qui permet d'accéder invisiblement à sa chambre. On est dans un salon en bas. Et on s'engage dans un escalier caché derrière ce mur lumineux. Et puis, il a fallu que je commence à me servir de couleurs assez brillantes, comme ça. Et je me souviens d'un espèce de jaune soleil dont je me suis beaucoup servi. Et très souvent, on pensait qu'il y avait du soleil dans la pièce alors que c'était le canapé qui était jaune. Et ça revient un peu à ces plaisanteries sur la lumière du jour que nous avons eues tout à l'heure.
Ce paradoxe, vous l'évoquez aussi en forme de grand écart parfois, et c'est là-dessus que j'aimerais que nous finissions, sur cette notion-là, c'est-à-dire le jour, la nuit, la lumière, l'écart entre une certaine folie et une certaine rigueur.
Sagesse.
Beaucoup de sagesse. Et finalement, tout l'espace entre, qui est l'endroit qui vous intéresse.
Oui, c'est vrai.
Donc, nous allons... nous dire au revoir pour aujourd'hui. Et demain, nous évoquerons tout cet espace, ces ponts, ces écarts, ces liaisons que vous avez fait entre les différents mondes que sont les arts, la mode et la décoration et le design.
C'était À Voix Nue, hommage à André Putman, décédé le 19 janvier et que Catherine Gell avait rencontré en 2002. Réalisation Christine Berlamont, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Catherine Gell avec André Putman. Thank you.